Vincent arrive sur les ondes de Radio Larzac.
Oui, c'est bien moi. Showtime, générique, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Showtime, votre émission sur le partage de la passion du cinéma, de la pop culture et des cultures de l'imaginaire sur les ondes de Radio Larzac. Pour ce second épisode de la saison 8, nous sommes au mois de novembre et nous sommes confinés, reconfinés, mais ça ne va pas m'empêcher de vous partager ma passion du ciné avec le programme que voici. Tout d'abord, commencerons l'actu du mois avec le quelque peu que j'ai réussi à tirer de l'actu du mois. Vous allez voir qu'on arrive très bien à faire du vieux avec du neuf. Enfin, plutôt inversement, du neuf avec du vieux. Enfin bref, ensuite suivront les suggestions, puis un premier avis sur le jeu vidéo Little Hope avant de conclure avec un focus sur une petite réflexion que je suis en train de me faire dernièrement sur les vies d'un film et notamment ceux qui risquent très malheureusement d'arriver avec le Covid, tout ça, fermeture de ciné, blablabla. Films qui arrivent avant sortie en Blu-ray sur des plateformes de VOD, enfin bref, je vous en parlerai mieux à ce moment-là. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, Showtime saison 8 épisode 2, c'est parti.
L'actu du mois.
Alors, dans l'actu du mois, je tenais à vous parler du film Zéroville de James Franco. Bon, au premier abord, moi, la bande-annonce m'a intéressé parce que déjà, je suis un fan de James Franco. J'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau de son acting, etc., même au niveau de la réalisation. C'est un acteur que j'apprécie beaucoup, donc. Et là, arrive un film que je ne connaissais pas avec ce monsieur qui est amené à sortir. De quelconque manière, ça, je ne sais absolument pas. Mais avant de vous en proposer la bande-annonce, je vous en lis le synopsis. Août 1969. Jérôme Vicard, motard au crâne rasé et tatoué, débarque à Hollywood Boulevard. Il espère y débuter une prodigieuse carrière cinématographique. Mais très vite, les délusions s'accumulent pour lui. Le cinéma n'est plus un septième art, mais un grand commerce.
Silence, plateau ! Son moteur !
Et qu'est-ce que tu fous à Hollywood ? T'es venu pour acheter de l'herbe ?
La phrase, c'est plus jamais.
De Tillinger. Je fais le montage de ce film.
Ravi de te connaître, Vicard. C'est un autiste du 7e art, ce qui veut dire qu'il vit et respire les films, et je suis presque certain qu'il est encore plus sot.
J'ai eu une idée sur un grand requin blanc qui terrorise une ville de la côte, genre une ville de Nouvelle-Angleterre.
Un robot requin.
Quoi,
un robot requin?
Pourquoi
droïde,
tous des robots? Vous deux, vous
un
pouvez plus faire de films ensemble.
Qui c'est?
Elle? Soledad. J'ai entendu dire que c'était une garce.
Je veux aller lui parler.
Son copain a pris du LSD, lui a mordu le nez, alors elle a sauté par la fenêtre et s'est tuée.
Bienvenue à Hollywood, petit.
Tu veux bien m'apprendre le montage?
Bien sûr.
J'aimerais que vous veniez à New York, travailler sur un projet.
Je vais monter votre film.
Qu'est-ce que ça te fait de me voir mourir?
J'adore te voir mourir, parce que je peux te ramener à la vie.
J'ai écrit un film de guerre cauchemardesque. Napalm, armée où il y a que des sauvages, drogue. On est au cœur des ténèbres, si tu vois ce que je veux dire.
J'ai l'impression que ta carrière est vraiment en train de décoller.
Tu m'as volé mon film, Rondel!
C'est pas ton film, c'est le mien, mec!
Il est même pas encore fini! Ça prend du temps! Mais c'est de l'art, faire un film, c'est de l'art!
Mais non, c'est pas de l'art!
Si, c'est de l'art et ça prend du temps!
Tu veux dire si je savais que ça allait devenir un film génial?
Super, c'est ton cadeau. Je t'offre quelque chose de spécial pour fêter ça. Profites-en bien, tu vas t'éclater ce soir.
Caméra, non,
coupé.
C'est un film vraiment étrange.
Alors, comme vous avez pu l'entendre avec cette bande-annonce, moi, ce qui m'a fait... qui m'a intrigué déjà, c'est, bon, comme j'ai pu le dire, James Franco, mais aussi parce que ça parle cinéma, et notamment du principe de montage, ce genre de choses. Ça a l'air de nous amener dans l'arrière-coulisse de l'industrie cinématographique courant des fin années 60. Donc, moi, ça m'a intéressé. Et au final, je me suis demandé, ben, quand est-ce que ce film va nous sortir ? Ben, concrètement, il n'y a pas de réelle date de sortie, puisque lorsque l'on va sur un site qui commence par Halo et qui finit par Ciné, la seule date que l'on voit, c'est 1er novembre 2020. C'est la date à laquelle correspond ben, la sortie de la bande-annonce sur certaines chaînes sur YouTube. Et lorsque l'on fouille un petit peu plus, on se rend compte que le film, il a été tourné courant 2014. Et il ne sort que maintenant. D'où le fait que je vous disais que avec cette actu ciné, ben, c'est comment faire du neuf avec du vieux. Parce que bon, il y aurait eu pas mal de péripéties au niveau des distributeurs du film, et ça serait que dernièrement, 2019-2020, qui serait sorti, ben, qu'il aurait eu pu être distribué. Donc moi, à l'occasion, si j'ai l'occasion de le voir, ben, je vous en reparlerai. Et d'ici là, ben, je ne peux que vous suggérer de vous intéresser au film comme au livre dont il est inspiré. Livre de Scott Erickson, du nom de Zeroville. Donc oui, si tout ce que j'ai pu vous dire vous a éveillé votre curiosité, donc je ne peux que vous conseiller de vous y intéressé. Et tiens, en parlant de bouquins, mais ça serait pas une amorce toute faite hein, pour enchaîner avec les suggestions ?
Les suggestions.
Dans les suggestions du mois, et on va retourner du côté de l'univers mutant de Marvel Comics. Toujours chez Panini Comics, avec cette fois-ci Dawn of X d'un collectif d'auteurs. Mais le tout est supervisé par la plume de Jonathan Hickman. Comme j'ai pu vous le présenter le mois passé, Jonathan Hickman, épaulé par des dessinateurs comme Pepe Larraz et Hervé Silva, a remodelé l'univers mutant, l'univers des X-Men de Marvel, grâce aux comics House of X, Powers of Ten. Et bien entendu, tout cela a amené une suite qui nous est sortie très récemment sous le nom de Dawn of X. On peut trouver deux formats différents pour ces bandes dessinées, soit un format un petit peu rigide comme celui que j'ai entre les mains, soit un format un petit peu plus souple. Dans tous les cas, c'est pas loin de 200 pages qui nous attend à chaque fois, car oui, ces ouvrages regroupent les différents numéros que composent les nouvelles séries mutantes. En soi, on a du X-Men, du Maraudeur, du X-Force, et j'en passe. Car oui, toutes les séries, toutes les nouvelles séries qui forment une histoire en elle-même sont présentes. Chaque numéro, ici le numéro 1 et 2 que j'ai entre les mains, bon, vous ne voyez pas, mais ils s'entendent, hein, ils sont bien là. Mais dans le numéro 1, on trouve tous les numéros 1, et dans le numéro 2, on trouve tous les numéros 2. Donc en fait, si on peut s'essayer avec le numéro 1, voir si ça plaît, en plus, c'est un beau pavé, comme les premiers numéros, ils sont un petit peu plus, ils ont un peu plus de pagination qu'à l'accoutumée. Mais ouais, du coup, c'est un bon point de départ pour s'y essayer et voir si ça peut venir à plaire. Et franchement, moi, c'est un véritable régal. Hein. Les X-Men, je sais pas pourquoi, mais moi, je préfère les X-Men chez Marvel. Moi, ceux que je préfère, c'est les X-Men et Spider-Man. Mais ouais, là, franchement, moi, ça amène une histoire qui est, oui, qui unit, cohérente. Et oui, on demande à en découvrir la suite au fur et à mesure que les numéros évoluent. Hein. Là, on suit un petit peu les différents mutants sur leur nouvelle île-nation de Krakoa et voir comment ils arrivent à s'imposer dans un monde bah, qui continue un petit peu de les rejeter. Hein, parce que bon, les X-Men, c'est une des thématiques premières, bah, c'est justement cette rejet de la différence. Et j'en passe. Donc oui, c'est un récit mené de main de maître. Hein, c'est un récit de super-héros, mais qui use quand même de petites ficelles très portées sur la science-fiction. Hein, Jonathan Hickman oblige. Mais ouais, franchement, c'est deux comics, tout du moins. Moi, je recommande le premier pour bien s'y intéresser, mais que je recommande. Hein, ça se retrouve aux éditions Panini Comics. Et ça donne envie de découvrir justement ben, jusqu'où peut nous amener ce renouveau des X-Men. Et franchement, ça fait plaisir.
souffle pas fort. Let me put my shades on. Let the buffoons hear me. Dragon takes my deep insanity. Like a big, big bang, kill dirty. Hit the bullshit, tick-tock, 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 ball. Things right to keep it locked on. Jane down, down, then a clock's on. In my jacket, down my back, in my round, in my backpack. Starts with a bomb.
Cool, Gigi. What else goes boom?
The breakdown goes boom!
Hell, I'm unstoppable. This time it comes back to y'all.
C'était Amarante, Boom One. Assez étrange comme musique, mais je trouve que le flow du chanteur à la voix grave est assez surprenant pour ce registre musical. Enfin moi, je trouve que ça matche bien. Bon, allez, on passe à la vie. La vie. Little Hope, deuxième opus du premier volume de la Dark Pictures anthologie de Supermassive Games. Alors, Supermassive Games, ils se sont fait d'abord connaître avec le jeu vidéo Until Dawn. Until Dawn, où on jouait, à travers une aventure interactive type cinématographique, une bande de potes prise au piège dans un chalet d'un tueur en série en pleine montagne. Selon nos interactions, il arrivait différentes actions, interactions justement, qui pouvaient basculer, faire basculer, oui, l'aventure de bout en bout, si ce n'est la destinée de ses protagonistes, en venant parfois peut-être à les tuer. Fort de ce succès, ils ont décidé de créer la Dark Pictures Anthology, cette fois-ci en partenariat avec l'éditeur Bandai Namco. Ils proposent donc une aventure toujours interactive qui permet de surfer sur certaines légendes urbaines, mythes et légendes, et j'en passe. Tout ceci sous la supervision du conservateur, un personnage qui va justement nous conter ses différentes histoires et qui va nous aider tout du long de l'histoire, un petit peu à l'image du psychologue de Until Dawn. Ici, il va nous guider, nous donner quelques indices et pourquoi pas, des fois, nous dégoûter. Est sorti donc en premier opus, Man of Medan. J'ai déjà pu vous en parler. Ici, celui qui nous intéresse, c'est Little Hope. Little Hope, je vous présente le steelbook, mais je crois qu'il n'y a pas de réel synopsis du jeu. Ah, je l'ai mis où le disque ? Le disque a disparu, il doit être dans la boîte de Resident Evil, ce n'est pas grave. Mais comment bien vous expliquer Little Hope ? En soi, c'est la nouvelle donc aventure de la Dark Pictures Anthology qui va se passer dans la ville donc de Little Hope. Une sorte de ville un petit peu silentinesque sur les bords, puisque piégée dans la brume, nous devrons donc avancer pour en percer les secrets. Et c'est au contrôle de 5 personnages différents que nous avancerons. Bon, on peut jouer de 2 à 5 joueurs sur ce jeu. On peut jouer par exemple à 2 comme on a pu le faire avec la chérie pour découvrir les tenants et aboutissants de cette nouvelle aventure. Parce que oui, suite à un accident de bus, ces 5 protagonistes se retrouvent donc piégés dans la ville de Little Hope qui a un lourd passé avec les sorcières. Les sorcières donc qui hanteraient donc la ville et au travers du brouillard se cacheraient des créatures peu fréquentable. Après, nous verrons que l'histoire évolue sur différentes timelines, différentes périodes, et c'est ainsi que nous apprendrons à en démêler tous les secrets. Mais ça, je vous laisse le découvrir.
Going the wrong way.
It's fine, just a quick detour.
Happened. Where are we?
We're near Little Hope.
Sounds like a fun place.
Funnily enough, Little Hope does have an interesting and dark history.
The way this fog just appears, it's not natural.
Seems the fog won't let us go anywhere except into the center of town.
What the hell is this thing?
A warning, perhaps.
What more proof is needed that the devil walks among us in Little Hope?
There's someone else out here, by the fire.
Come play. Come play with me.
My God, what do we do?
What the hell is that?
One in league with the devil.
Pour ce qui est du gameplay en lui-même, on reprend un petit peu la même recette, c'est-à-dire action contextuelle. Il faut appuyer rapidement sur un bouton en temps voulu. Il faut également retenir par moments sa respiration avec également une notion supplémentaire. On n'avait pas appuyé sur triangle hein, dans Man of Medan. Ici, la notion de triangle peut apparaître lorsqu'il faut être calme pour pas se faire repérer. Mais, en soi, comment bien vous présenter ce projet, ce nouvel opus de la Dark Pictures Anthology? Il est appréciable. Déjà dans son histoire, moi je m'y suis un petit peu plus retrouvé, c'est vraiment plus intéressant que Man of Medan qui était un petit peu trop lent. Et lorsque les choses commençaient à arriver, moi j'ai pas été du tout happé par l'histoire de Man of Medan, hein. Je la trouve un petit peu molichonne. Alors que ici, de par justement ces différentes temporalités que nous avons à suivre, de par ce mystère, cette ville lugubre plongée dans le brouillard, même grâce aux musiques de Jason Graves, on est beaucoup plus happé à mon goût. Bon, ici, nous avons toutefois affaire à une production un petit peu en deçà de ce qu'a pu nous offrir Until Dawn, mais je trouve tout de même un tant soit peu supérieur, techniquement, graphiquement, que Man of Medan. Bon, on retrouve toujours une certaine rigidité sur les personnages, mais des personnages qui sont tout de même superbes à voir à l'écran. Et notamment, le conservateur, on sent que c'est un petit peu lui le protagoniste principal, hein. Enfin, du moins, c'est lui le conteur, un petit peu à la manière du creep show, hein. Ici, c'est lui qui nous raconte les histoires, et lui, il est de toute beauté, hein, au niveau des animations faciales, etc. Il est vraiment bluffant à voir. Et oui, comme j'ai pu vous le dire, pour un moment, il peut venir à nous dégoûter, on peut se dire, mince, on n'a pas assez fouillé. Après, pour ce qui est du jeu en lui-même, du gameplay, comme j'ai pu vous le dire, on reprend un petit peu la même recette que Until Dawn, Man of Medan. Mais c'est plus simple à mon goût, comment vous dire. Par moment, il apparaît des petits cercles à des endroits bien prédéfinis autour de l'écran. Et lorsque l'on comprend ce genre de choses, même s'ils peuvent venir parfois à bouger un petit peu, on comprend que quand ça apparaît, mettons sur Tron, ben, on sait que lorsque ce symbole-là apparaît, ça va être rond. Pareil pour X, tout ça. Parce qu'il y a un petit temps, il y a un petit temps en plus, qui nous permet justement de nous dire, ah, ça va peut-être être ça. Enfin, on le verra lors de la rejouabilité, parce qu'on compte bien le saigner, celui-là. Mais j'ai trouvé que du coup, ça facilitait un petit peu les QTE, les actions qu'il faut faire rapidement pour pouvoir se sortir d'une situation. Et ouais, j'ai trouvé que ça allait faciliter de même le côté de la respiration. Autant dans Man of Medan, il nous est arrivé à de nombreuses reprises de nous y planter. Mais là, c'est rare les moments où on s'est loupé. Pareil, là où par contre, il faudra creuser le jeu, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent varier selon si l'on joue bien le personnage dans ses caractéristiques. Ou est-ce qu'il faut aller plus loin que ses caractéristiques? Parce que par moment, on a perdu des personnages, ben justement parce que je crois qu'on n'avait pas bien déverrouillé les caractéristiques propres au personnage selon comme il aurait fallu le faire pour pouvoir justement se tirer d'une situation. Ça peut être un petit peu frustrant du coup parce qu'on perd le personnage sans vraiment l'avoir perdu, puisque ce n'est pas vraiment de notre faute. À part une fois, et encore j'ai un petit doute, tu t'étais vraiment loupé là pour le personnage qui a brûlé ou pas? Ouais, voilà, c'était du 50-50. Donc si, on peut quand même perdre nos personnages si on vient à faire un mauvais choix. Mais moi, je serais curieux de refaire pleinement l'expérience Little Hope. Je pense que lorsque ça sera fait, ça sera avec plaisir que je vous en reparlerai. Après, moi, vous l'avez compris, pour moi, je l'ai apprécié à Man of Medan, même si on n'est pas encore au-devant de la qualité d'un Until Dawn. Peut-être que la suite prévue pour 2021, du moins le nouvel opus de la Dark Pictures Anthology House of Ashes, nous réservera de meilleures surprises. Qui sait? D'ici là, on enchaîne tout de suite en musique. Won't you spare me over till another year? c'était A Conversation with Death de Kemis, musique que l'on peut entendre en introduction de Little Hope et Man of Medan. C'est une sorte un petit peu de reprise de la musique Odeste, j'ai plus le nom, mais on l'entend déjà dans Until Dawn, on l'entend aussi dans Supernatural lorsqu'on la voit pour la première fois, le Cavalier de la Mort qui apparaît dans la saison 5, et on l'entend à de nombreuses reprises, hein. C'est une musique populaire, va-t-on dire. Bon, ceci étant dit, je vous propose qu'on enchaîne avec le focus.
Focus sur...
Alors, pour ce focus, je tenais à vous parler un petit peu cinéma à proprement parler, notamment sur la vie des films. Là, bon, on va pas s'en cacher, on vit un petit peu une époque un petit difficile avec toute cette histoire de Covid. Et ouais, ça amène quelques petites tensions dans le milieu cinématographique. Bon, déjà, pour petit rappel, un film, ça a plusieurs vies. Bon, déjà, il y a la sortie en salle, ensuite il y a la sortie dans les bacs pour enchaîner avec la diffusion à la télévision, et maintenant on peut y ajouter aussi une autre vie encore avec les la diffusion sur les plateformes de streaming. Le problème, c'est que, bon, actuellement, hein, au niveau des films, c'est un petit peu la galère. Il y a beaucoup de sorties ciné qui ont été reportées à cause du Covid. Cette année 2020 a été très pauvre sur le plan du cinéma international. Et nombre de ces sorties que l'on attendait ont été repoussées à 2021. Sauf que pour le gros de ces films... Ben, à force, on commence presque à en tenir tous les tenants et aboutissants. Hein. Au fur et à mesure qu'il y a des interviews avec un ou une actrice, on a quelques brides d'indices sur le film. C'est un petit peu le cas avec Black Widow, dont il y a certains éléments d'intrigue qui ont été révélés, ou plus récemment avec James Bond, Mourir peut attendre, où justement il y a un peu une sorte de polémique étrange avec le fait que Lashana Lynch incarne le nouveau 007 à l'écran. Là où moi je vois pas spécialement de polémique, c'est parce que ça fait un moment déjà que cette information est connue. Pourquoi d'un coup les médias s'en accaparent et disent « Ah, c'est elle la nouvelle 007 ?» Mais non, attendez, ça fait un moment que l'information est sue, est connue, qu'on en a déjà parlé, et maintenant on remet ça sur le tapis. Ça fait un petit peu bizarre de ressortir ça avec les élections américaines qui battent leur plein, avec sous fond de racisme, Black Lives Matter, la question féministe monte en puissance. Enfin, ça fait étrange et je comprends pas du tout l'intérêt de mettre ça sur le tapis. C'est un petit peu bébête et c'est... Et c'est, ouais, c'est soi-disant dit, ouais, c'est de la fausse information. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de fausses informations concernant ces films qui devaient sortir. Mais le problème, c'est que des fois, oui, ils devaient sortir et ils sont quand même sortis. Je reprends l'exemple de Mulan, hein, c'est pas un exemple qui est. Non connu, hein. Tout le monde sait que Disney a choisi de ne pas diffuser Mulan en salle, on se souviendra tous hein, de ce directeur de cinéma qui défonce à coups de batte de baseball la PLV du film, parce que Disney, oui, ils ont fait le choix de le diffuser sur leur chaîne de streaming, service de VOD, vidéo à la demande, Disney+. Et en faisant cela, ben, ils proposaient au public américain de débourser la modique somme de $30 pour pouvoir avoir accès au film et le regarder ad vitam aeternam. Bon, nous, il va sortir le 4 décembre et il va sortir de manière gratuite pour le public français, c'est-à-dire que nous, on n'aura pas à débourser de l'argent pour pouvoir le voir en amont. Mais déjà, c'est une pratique qui a fait polémique. Et justement, pour rebondir à nouveau sur James Bond, si on fait un petit peu le curieux, on peut apprendre qu'il y a eu des discussions, notamment de la MGM, pour éventuellement, je ne sais plus si c'est MGM ou Sony, je dis peut-être une bêtise, enfin, c'est un des deux qui a fait des discussions pour justement, hypothétiquement, le sortir ben, dans les temps, hein, pour pas ruiner le film, hein, parce que bon... Déjà, ça a dû leur coûter bonbon au niveau com, c'est-à-dire par rapport à la communication qui a commencé. Normalement, il devait sortir, je crois, mars, avril, un truc dans le genre, puis novembre, tout ça, reporté à mars prochain, mars avril prochain. Enfin, je pense que ça doit coûter bonbon en communication. Et justement, pour peut-être rattraper tout cela, ils étaient en pourparlers pour le vendre à un service de SVOD pour pouvoir le diffuser. Bon, ça s'est pas fait, il va bien sortir en salle, mais ça amène beaucoup de questions justement sur l'avenir de l'industrie du cinéma. Mais là aussi, où je voulais rebondir, c'est lorsque l'on parle des sorties des films en Blu-ray. Le Blu-ray, enfin Blu-ray ou DVD, c'est un petit peu la seconde vie du film. Des fois, lorsqu'on apprécie un film, on attend que ça, hein, qu'il sorte en physique pour pouvoir le regarder à nouveau. Et bémol, c'est que dernièrement arrive l'étalon, hein, le cheval de course vidéo à la demande. Il y en a moult et moult, hein, Netflix, Amazon Prime, enfin j'en passe, enfin bref, je cite certains noms, il hein, n'y a pas de partenariat ou quoi, mais c'est juste pour présenter mon propos. Mais par exemple, moi, il y a un film dernièrement qu'on a vu et qu'on a bien apprécié, là je vous en parlerai peut-être prochainement à l'occasion, Sea Fever, une sorte de mix de huis clos. Sur un bateau en pleine mer croisé avec l'univers de The Things de John Carpenter avec un petit peu de Cthulhu sur les bords, enfin bref, ce film là moi il m'avait intrigué de par sa bande annonce. Il est sorti en août, jusque là je n'ai pas pu me le procurer parce que bon, c'est vrai que quand même ces galettes, hein, elles ont un coût, on va pas s'en cacher. Et là dernièrement, ben sur un service de vidéo à la demande auquel je suis abonné, ben il était disponible. Ben, du coup on l'a regardé comme ça. Mais est-ce que du coup je l'achèterai ensuite en Blu-ray? Ça, c'est une bonne question, c'est pas certain, hein. Et c'est un regret, parce que lorsque l'on regarde ce que viennent des fois à proposer les services de vidéo à la demande, notamment Netflix, qui a beaucoup de séries inédites, ben, ça se compte un peu sur les doigts d'une main, hein, les séries Netflix qui sont disponibles en DVD ou Blu-ray. Je pense à Daredevil, Jessica Jones. Je crois que ça doit pas être évident à trouver, hein. Je crois que c'est sorti, mais j'en suis pas certain. Par exemple, la série Sex Education, je crois pas que ce soit sorti encore en Blu-ray ou DVD, alors que pour autant, la saison 2 est sortie très récemment, voire peut-être la troisième saison. Enfin, la véritable question par rapport à ces services de vidéo à la demande et concernant le cinéma en lui-même, c'est qu'est-ce qui va se passer si un jour ces plateformes disparaissent ? Cette part de culture va disparaître avec ? Déjà que là, c'est un petit peu la galère, que là, c'est la guéguerre pour sortir des films d'une manière ou d'une autre, que, mettons, ben oui, comme j'ai pu vous le dire, Mulan, si un jour Disney Plus disparaît, là, aux dernières nouvelles, j'ai pas eu connaissance d'une sortie en Blu-ray ou quoi que ce soit, ben qu'est-ce qui va se passer ? Le film, il va disparaître ? Enfin, c'est ça, là, que je suis en train de me demander, c'est que vraiment, à tout vouloir digitaliser, ben, on se prend les pieds dans le tapis, là. C'est une part de notre histoire et de notre culture qui va disparaître. Parce que, mettons, il y a certains films qui ont été remasterisés, etc., etc., qui ont été diffusés, peut-être des fois avec des bonus inédits, hein. Je pense, par exemple, à Star Wars. Franchement, c'est un panthéon de la science-fiction. Et sur Disney+, il y a des bonus inédits. Mais si ça disparaît, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces bonus inédits ? Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense qu'il y a de grosses questions à se poser sur la culture aujourd'hui, en général, sur la culture cinématographique, une culture qu'il faut continuer de soutenir. Donc bon, moi j'espère que les salles vont bientôt nous rouvrir, et ouais, enfin, je sais pas si vous avez bien pu visualiser mon propos, mais moi c'est un questionnement sur qu'adviendra-t-il si tout cela vient à disparaître, le numérique, ce genre de choses, c'est très étrange, hein, très très étrange l'ère dans laquelle on vit. Bon, ben moi j'ai presque envie de dire à suivre en 2021, enfin bon, d'ici là il va y avoir l'émission en décembre, mais voilà, voilà. I can't trust myself.
that's happening. I think I'm in over my head. The more I think about it, the worse that it gets.
C'était Curse of Cure de Icon for Hire. Bon, je vais pas plus m'étaler davantage sur la question du focus que je viens de vous présenter, mais je pense que ça a le mérite de poser une question légitime, surtout que je viens de me rappeler qu'on a déjà un précédent dans toute cette affaire. Revenons vite fait sur Netflix, mais la série 13 Reasons Why, je sais pas si vous voyez de quelle série je parle, cette série où il y a une demoiselle qui se suicide, qui laisse 13 cassettes audio derrière elle pour expliquer le pourquoi du comment elle en est venue à ce geste. Et bien justement, dans le premier épisode, il y avait la séquence du suicide, et quelques années après la sortie du 10 premier épisode, Netflix l'a censuré. Du coup, à moins qu'il y ait des chanceux qui aient pu pirater la série et qu'il l'ait en leur possession, cette séquence est inédite et collector. Et malheureusement, ça sortira jamais en Blu-ray ou quoi que ce soit, puisque à ma connaissance, c'est pas prêt de sortir ou ça ne va pas encore sortir dans l'immédiat en Blu-ray ou DVD. 13 Reasons Why. Enfin, si vous êtes du milieu et que vous vous tenez à en discuter, je vais vous expliquer dans quelques minutes comment vous pouvez me contacter dans quelques instants, comment vous pouvez me contacter pour pouvoir éventuellement en discuter. Et même, si vous êtes amateur de cinéma et que vous voulez en parler, ça sera avec grand plaisir. Ceci étant dit, moi j'ai pas plus à vous dire, car oui, cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, je vais être franc, je vais pas m'étaler davantage, j'ai pas grand plus à vous dire. Si ce n'est que oui, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante showtime.radiolarzac@gmail.com ou showtime@radiolarzac.org. Que ce soit pour discuter par exemple sur le focus que je vous ai présenté ou pour me suggérer des avis et autres idées pour la suite, ça sera avec plaisir que je vous lirai. Je vous remercie, auditeurs, de m'avoir écouté et je remercie également Radio Larzac de continuer à me diffuser. Je n'ai pas plus à vous dire, dans ce contexte, ces temps difficiles, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis donc à la prochaine.